Émile Gaborio, Les cotillons célèbres, Mademoiselle de la Vallière. Si puissante que fût l'autorité de Louis XIV, elle ne pouvait arrêter les fâcheuses interprétations que l'on donnait aux assiduités du roi près de la femme de son frère. On trouvait cette préférence marquée un peu bien scandaleuse pour un fils aîné de l'Église qui venait d'établir un conseil de conscience ad majorem Dei gloriam. La reine-mère, admirablement renseignée sur les moindres faits et gestes du roi, voyait avec effroi grandir chaque jour l'influence de madame, qui déjà la reléguait au second plan. Elle avait volontiers passé à son fils des souillons, des filles de chambre, voire une négresse. Elle ne voulut pas lui passer Henriette. Elle fit tant et si bien qu'elle rendit jaloux monsieur, qui n'y songeait guère. Elle lui fit représenter par un de ses favoris qu'en cette circonstance, comme toujours, il était le plastron de son frère, et monsieur poussa les hauts cris. Anne d'Autriche fit chorus, et le roi ne sut plus auquel entendre. Louis XIV n'était pas encore si absolu qu'il le devint, le scandale lui fit peur. D'un côté, il redoutait la colère de sa mère, pour laquelle il avait toujours eu la plus grande déférence, et de l'autre, l'explosion de la douleur de la reine, sa femme, qu'une indiscrétion pouvait instruire de tout. Marie-Thérèse était alors enceinte, et un chagrin violent pouvait assurément lui faire manquer son dauphin. Enfin, et par-dessus tout, il craignit qu'une intimité si publique, avec une femme d'un esprit supérieur, et madame avait cette réputation, ne le fit soupçonner de faiblesse et ne donnât à penser qu'il pouvait, lui, le roi, recevoir des inspirations et se laisser conduire. Madame Henriette, pour sa part, était épouvantée de tout ce bruit, de tout ce déchaînement de calomnies ou de médisances. Elle eût rompu brusquement sans cette conviction, qui influa si tristement sur toute sa vie, que son ascendant sur Louis XIV pouvait être à son frère Charles II de la plus grande utilité. Toutes ces considérations décidèrent Louis et Henriette non à rompre, ce qui paraissait impossible au roi, mais à se contraindre et à dissimuler. Il fut convenu entre eux que le roi feindrait une grande passion pour une des filles de madame et que madame semblerait fort irritée d'avoir été si longtemps dupe de prévenances qui, en réalité, s'adressaient à une autre. Henriette se chargea de trouver elle-même l'écran derrière lequel s'abriteraient ses relations et, après mûre réflexion, elle choisit celle de ces demoiselles d'honneur qui lui sembla la moins jolie et la plus insignifiante et la désigna à l'attention du roi. Cette jeune fille, dont le maintien modeste, la timidité et le caractère effacé rassuraient si complètement madame qu'elle consentit à lui prêter le rôle de rivale, était Mademoiselle de la Vallière. Françoise-Louise de la Baume-Leblanc de la Vallière appartenait à une famille d'une mince noblesse. Elle était née en Touraine dans les premiers jours du mois d'août 1644. Fort jeune encore, elle perdit son père et sa mère, qui se remaria trois fois, avait épousé en dernier lieu Jacques de Courtavel, marquis de Saint-Rémy, premier maître d'hôtel de monsieur. La jeunesse de Louise s'écoula paisible au château de Blois, à la cour bourgeoise et un peu triste de Gaston d'Orléans, ce traître de toutes les conspirations du règne de Louis XIII. C'est là que, pour la première fois, Mademoiselle de la Vallière aperçut le roi à un voyage de la cour. Son amour pour Louis XIV date peut-être de cette époque. Pauvre, vertueuse, elle n'avait pas grande chance de trouver un bon établissement. Selon l'auteur des mémoires de Madame de Maintenon, la Vallière, pendant son séjour à la cour de Gaston, avait agréé la main d'un gentilhomme de Normandie auquel elle avait inspiré une passion sérieuse. Plus tard, à son retour de l'armée, cet officier, ignorant tout ce qui s'était passé en son absence, se rend chez madame, demandant vain la Vallière, court à l'hôtel qu'elle occupait, ne comprend rien à ce qu'il voit, ne peut parvenir jusqu'à elle, sort la rage dans le cœur. Un ami lui apprend la vérité sans ménagement. « Tout est perdu pour moi !» s'écrie cet amant malheureux, et il se perce de son épée. Celle qu'il avait tant aimée le pleura, et s'estima fort heureuse d'être admise au nombre des filles d'honneur de madame, dont on formait alors la maison. Elle avait été présentée et recommandée par madame de Choisy. Son arrivée à la cour n'avait pas fait sensation. Son peu de fortune lui interdisait les toilettes qui attirent l'attention, et sa beauté était de celles qui restent inaperçues jusqu'au moment où quelque circonstance fortuite vient les mettre dans le jour qui leur est favorable. Les nombreux portraits qui nous restent de Mademoiselle de la Vallière sont loin de nous donner une juste idée du genre de beauté, ou plutôt de charme, qui lui était propre. Il faut, pour bien se la représenter, se livrer à un travail qui a une certaine analogie avec les jeux de patience que l'on met aux mains des enfants. Il faut, en s'aidant des 3 ou 4 bons portraits que nous avons d'elle, rassembler les 1000 traits épars çà et là dans les chroniques, les comparer, les essayer, les ajuster enfin, jusqu'à ce que l'on obtienne un ensemble satisfaisant. Une grâce pudique et ingénue, une modestie naïve, un grand air de vertu instinctive, était le suprême attrait de Mademoiselle de la Vallière, et tempérait à propos ce que sa nonchalance maladive pouvait avoir de passionné. En elle, point de trait saisissant et vif, mais un ensemble ravissant. Rien de tranché, des nuances. Les reflets argentés de ses beaux cheveux blonds, la transparence nacrée de son teint éblouissant de blancheur, la suave expression de son regard d'un bleu céleste, étaient les parties essentielles de sa beauté. Sa voix était douce et pénétrante, pleine de caresses, elle vibrait encore dans l'âme longtemps après qu'on l'avait entendue. Enfin, sa boiterie même donnait à sa démarche une certaine grâce pudiquement effarouchée, qui était un attrait de plus. « Elle était aimable, écrit madame de Motteville, et sa beauté avait de grands agréments par l'éclat de la blancheur et l'incarnat de son teint, par le bleu de ses yeux qui avait beaucoup de douceur et par la beauté de ses cheveux argentés qui augmentait celle de son visage. » L'abbé de Choisy, qui avait passé son enfance avec Mademoiselle de la Vallière, esquisse d'un trait de plume cette douce et sympathique figure. « Ce n'était pas, dit-il, une de ces beautés toutes parfaites qu'on admire souvent sans les aimer. Elle était fort aimable, et ce vers de La Fontaine, et la grâce plus belle encore que la beauté, semble avoir été fait pour elle. Elle avait le teint beau, les cheveux blonds, le sourire agréable, les yeux bleus, le regard si tendre et en même temps si modeste qu'elle gagnait le cœur et l'esprit au même moment. » Un manuscrit français de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, dont il a été publié en France quelques fragments, trace un portrait infiniment moins flatteur de Mademoiselle de la Vallière. « Cette fille est d'une taille médiocre et fort mince, elle marche d'un méchant air à cause qu'elle boite. Elle est blonde, blanche, marquée de la petite vérole. Les yeux bruns, les regards languissants et passionnés, et quelquefois aussi pleins de feu, de joie et d'esprit. La bouche grande, assez vermeille, les dents pas belles, point de gorge, les bras plats qui font mal juger du reste du corps. » Mais il est un point sur lequel s'accordent tous les mémoires, c'est lorsqu'il est question du cœur et des grandes qualités de Mademoiselle de la Vallière. Aimable, bonne, généreuse, serviable, elle était dévouée jusqu'à la mort à ses amis. Sa modestie d'ailleurs était si grande qu'elle ne songeait qu'à s'effacer et que jamais elle ne blessa aucune vanité. Quel plus bel éloge peut-on faire d'une femme qui pendant 7 ans fut toute puissante sur le cœur de Louis XIV. Elle eut des envieux cependant, maintes fois on chercha à la renverser, mais aucun de ceux qui cherchaient à lui nuire n'eut pu trouver un prétexte raisonnable d'être son ennemi. douée d'un jugement sain, d'un esprit solide, plus instruite que ne l'étaient en général les femmes de la cour de Louis XIV, elle n'avait pas cette verve médisante et moqueuse, fort à la mode alors, aussi l'accusait-on de manquer d'esprit. Peu d'esprit, pas d'esprit du tout, dit en parlant d'elle l'abbé de Choisy. Mais l'abbé veut sans doute ici parler de l'esprit d'intrigue. C'est à peu près dans ce sens que Madame de Lafayette disait « C'est une petite sotte qui n'a pas su profiter à la cour de sa position. » La conversation de Mademoiselle de Lavallière était fine et attachante. Son esprit est brillant, beaucoup de vivacité et de feu, telle est l'opinion de Bussy. Le manuscrit de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg dont j'ai parlé ajoute « Elle est gaie et causeuse, elle pense et dit des choses fort plaisamment, et ses réparties sont toujours très vives, sans jamais être blessantes. » Enfin, Madame de Sévigné, qui avait le droit de parler d'esprit et qui s'y connaissait, aimait fort celui de Mademoiselle de Lavallière. Dans plusieurs de ses lettres, elle cite de ces mots, mais ce n'est jamais sans ajouter « Mettez dans cela toute la grâce, tout l'esprit et toute la modestie que vous pourrez imaginer. » Telle était à 17 ans Mademoiselle de Lavallière lorsque Madame eut l'idée de se servir d'elle pour détourner l'attention de la cour et l'orage dont la menaçait la colère d'Anne d'Autriche. Fidèle aux conventions, Louis XIV, le soir même, s'arrêta devant Mademoiselle de Lavallière qui se trouvait dans un des salons d'attente de Madame. Il commença par lui dire des choses fort obligeantes et l'entretien continua à demi-voix. Les compagnes de Lavallière, Mesdemoiselles Montalet et Tonnet-Charente, qui se trouvaient là, s'étant retirées par respect, le roi laissa retomber la lourde tapisserie qui masquait la porte, et ainsi il resta seul au moins un gros quart d'heure avec la jeune fille. Lorsque Lavallière revint au salon, toute confuse de l'honneur inespéré qu'avait daigné lui faire le roi, tous les yeux s'arrêtèrent sur elle, comme si son front, qui rougissait sous les regards curieux, eût pu révéler quelque chose de la conversation royale. Plusieurs fois, dans les jours qui suivirent, on remarqua des scènes analogues. Le roi recherchait Lavallière avec un empressement marqué. Au bal, dans les salons de Madame ou même de la reine, à la promenade, il semblait prendre un grand plaisir à s'entretenir avec elle, et un soir, à la suite d'une chasse, il fit pendant plus d'une lieue galoper son cheval à la portière du carrosse où elle se trouvait. De toutes ces petites circonstances observées et réunies, on fit un gros événement, et il parut clair que le roi avait du goût pour Louise de Lavallière. Une indiscrétion des compagnes de la jeune fille d'honneur vint confirmer ce bruit. Un soir, à la suite d'une fête, les demoiselles de Madame s'étaient amusées à passer en revue les plus beaux cavaliers de la cour. C'était l'heure des confidences, chacune avoua sa préférence secrète. Le tour de Lavallière arriva. Elle se taisait. Ses compagnes la pressèrent. Elle leur dit alors que la seule présence du roi dans une fête l'empêchait de savoir même de la présence des autres hommes. Les moqueuses accablèrent Louise de leur raillerie. « Ainsi, mademoiselle la dédaigneuse, il faut au moins être roi pour vous plaire. » « Hélas !» soupira l'innocente, qui seule peut-être disait la vérité. « Hélas ! La couronne n'ajoute rien à l'éclat de sa personne, mais elle diminue le danger et le rend moins redoutable. Qui donc oserait lever les yeux jusqu'au roi ? » N'était-ce pas un aveu ? Ainsi du moins le prirent les jeunes filles, qui s'en allèrent partout, disant que Lavallière se mourait d'amour pour le roi. Tout le monde ne le crut pas, mais tout le monde le répéta. Si bien qu'un soir, chez Madame, le bouffon Roquelaure, il n'était pas plaisant tous les jours, prit Lavallière par le bras et, de force, brutalement presque, la traîna jusque devant le roi. « Je vous dénonce, sire, criait-il, cet illustre aux yeux mourants. Elle ne s'est aimée rien moins qu'un grand monarque. » Rougissante, éperdue, affolée de voir ainsi révélée et impitoyablement raillé le secret de son cœur, abîmé dans sa honte, la Vallière faillit s'évanouir. On fut obligé de la soutenir. Le roi, cependant, la salua le plus civilement du monde et lui adressa quelques paroles pleines de bonté. Jusque-là, Louis XIV ne s'écartait pas du plan convenu. Fidèle à son rôle, Madame se répandit en reproches contre la Vallière, cette petite hypocrite mielleuse, et se plaignit amèrement de la conduite du roi, qui, pour dissimuler une amourette avec une fille d'honneur, ne craignait pas de compromettre la femme de son frère. « Comme il avait honte de venir voir cette fille chez moi sans me voir, fait-on dire à Madame dans un pamphlet publié en Hollande, parmi cette masse de pamphlets plus ou moins injurieux publiés à l'étranger, il en est qui certainement ont été écrits sous l'inspiration de Louis XIV ou de ses ministres. De ce nombre sont deux ou trois libelles contre Madame, fort injurieux quant à la forme, mais qui, au fond, la disculpent de cette grave accusation d'avoir trop aimé son beau-frère. Déjà, avant le grand roi, on avait utilisé les pamphlétaires à l'étranger. Que fit le roi ? Il trouva moyen de faire dire à toute sa cour qu'il était amoureux de moi, et dès qu'il voyait quelqu'un, il s'attachait à mon oreille pour me dire des bagatelles. Il me mettait souvent sur le chapitre de sa belle en m'obligeant à lui dire les moindres choses. Comme j'étais aise de le divertir, je l'entretenais tant qu'il voulait. Lorsqu'elle se plaignait ainsi de l'humiliante rivalité de la Vallière, Madame était bien loin de se croire si près de la vérité. Après quelques caprices passagers, le cœur de Louis XIV était sur le point de se fixer, au moins pour un certain temps. Il s'était vite dégoûté de Mademoiselle de Lamothe-Houdancourt, que n'avait pu défendre contre ses entreprises la duchesse de Navailles, cette duègne infortunée des filles d'honneur, qui passait cependant ses nuits et ses jours, l'œil au guet, l'oreille tendue, essayant en vain de préserver de la dent du loup les trop tendres brebis confiées à sa garde. Délaissée, Mademoiselle d'Houdancourt épousa de rage le plus laid, le plus bossu des ducs et pairs, Monsieur de Ventadour. « Tant mieux si elle aime celui-là, » s'écria l'abbé de la Victoire. « Elle en aimera bien un autre. » Elle en aima beaucoup d'autres. Le règne de la princesse de Monaco ne dura qu'une nuit, le temps à peine de faire éclater la jalousie de Lauzun, son amant. Lauzun, qui prétendait lutter avec le maître, s'avisa de fermer à double tour la porte dérobée par où, chaque soir, la princesse se glissait chez le roi. Le moment venu, plus de clé, impossible d'ouvrir. Il y eut une scène d'un haut comique à travers le trou d'une serrure. Au moment où nous sommes arrivés, le cœur du roi flottait, fort indécis, entre trois femmes également remarquables, Mademoiselle de Pons, que la comtesse de Soissons venait de lui jeter à la tête, Madame, et enfin Mademoiselle de la Vallière. L'humble fille d'honneur l'emporta. Roquelaure avait cru faire une méchanceté atroce, il atteignit le roi dans la seule chose qu'il eût de véritablement sensible, son amour-propre. La vanité de Louis fut délicieusement flattée de ce culte profond et mystérieux dont il était l'objet. Il eut un regard de bonté pour celle qui se consumait d'amour, n'osant lever les yeux jusqu'à lui. Trois ou quatre entretiens achevèrent le charme. Louis XIV n'aimait pas l'esprit, et la conversation douce et tendre de la Vallière le réduisit et l'attacha. Bien que les grandes passions ne soient guère contagieuses, les ardeurs contenues de cette âme brûlante fondirent pour un moment les glaces royales. Une correspondance secrète s'établit entre les deux amants. Ils échangèrent des vers assez pitoyables et une prose ponctuée de tendres larmes. D'Anjou et Benserade tenaient la plume pour le couple illustre. D'Anjou, choisi par Louis XIV pour exprimer ses sentiments, fut aussi choisi par la Vallière pour être son interprète. L'illustre courtisan fut ainsi le premier dans le secret. Il écrivait les lettres et les réponses, réservant l'esprit pour le roi, donnant habilement la réplique dans les lettres de la Vallière. Ce fut la source de sa faveur, et la source ne tarit jamais. Il avait le département de la prose, ben serrade celui des vers. Plus tard, en un jour d'épanchement, la Vallière osa avouer au roi que ses lettres si tendres avaient été écrites par un secrétaire. « Et par qui donc ?» demanda Louis XIV. « Par Dangeau et Bincérade, sire !» Le roi se mit à rire aux éclats. Puis, redevenu sérieux, « Voilà, dit-il, de bons serviteurs discrets et fidèles. S'ils faisaient vos lettres, ils faisaient aussi les miennes, et jamais n'en ont soufflé mot. » Telle avait été la discrétion des confidents de Louis XIV, discrétion qu'explique un intérêt bien entendu, que rien ne transpira de ces premières relations. Les gens clairvoyants, cependant, ceux qui connaissaient à fond la carte de la cour, se doutaient de quelque chose. Interrogeant chaque jour l'horizon de la faveur, ils invoquaient l'étoile de Mademoiselle de la Vallière qui se levait. À cette époque, il y avait deux puissances en France, Louis XIV et Fouquet, le surintendant des finances. Fouquet était plus riche que le roi, il puisait sans compter au coffre de l'État et ne rendait compte qu'autant qu'il le voulait bien. Non content de voler, il laissait voler les autres. Le plus effroyable désordre régnait dans les finances. Fouquet lui-même ne savait plus où en étaient les comptes. Le nom de Fouquet est resté le synonyme de générosité et de munificence. Au moins faisait-il un royal usage des millions qui restaient dans le double fond de sa caisse. Autour de lui se groupait un peuple d'amis et de flatteurs. Il avait plus de la moitié de la cour à sa solde, c'était un formidable parti qu'il entretenait, si on lui eût donné du dévouement pour son argent. À côté des courtisans, se pressait à la table du surintendant toute une académie d'artistes et de gens de lettres. Il les aidait à vivre ou même les enrichissait les uns et les autres. Pour un sonnet, il donnait une pension, pour moins souvent. Scarron était inscrit pour 1200 livres parce qu'il avait eu une très belle femme, celle-là même qui devint Madame de Maintenon. Le surintendant si riche adorait les femmes et il était payé d'un tendre retour. « Jamais surintendant ne trouva de cruel, » dit Boileau. Ce vers désignait Fouquet. Il avait chez lui un cabinet tapissé des portraits de celles qu'il avait aimées. Le cabinet était immense. Le coffret qui renfermait sa correspondance galante avait des proportions analogues, il y avait là pour des millions de tendresses et d'amour. Courard, Mémoire, tome 48. À la tête de la police amoureuse et politique de Fouquet était Madame Duplessis Bélièvre, une amie dévouée et un agent courageux. Elle achetait pour lui des secrets et des femmes, elle n'avait pas une minute de repos. Pélisson, qui devint plus tard le panégyriste patenté de Louis XIV, était comme son intendant. L'ancien parti de la Fronde tenait ses grandes assises dans son salon, la cour nouvelle y accourait en masse, il y avait fusion. Ce salon inquiétait Louis XIV qui jalousait les belles fêtes et les millions du surintendant. Ces millions arrachés à la France, il les considérait comme siens. Aux fêtes de Fouquet se pressait toute la noblesse, ces jours-là, la cour était presque déserte. C'était aussi trop d'insolence. Deux ou trois fois la fortune de Fouquet avait chancelé, mais elle s'était toujours relevée. Ce financier, artiste et grand seigneur, manquait cependant d'adresse. Il ne crut au danger que le jour où il fut au fond du précipice, un cul de basse fosse. Croyant prendre ses précautions, il avait acheté des gouverneurs de places de guerre et fortifié Belle-Île. Il donnait simplement des armes contre lui. Depuis longtemps, Louis XIV voulait se défaire du surintendant. Il y était surtout poussé par Colbert, qui désirait voir clair dans ce gâchis des finances et qui pensait assez justement que l'or des impôts est trop précieux pour le laisser gaspiller. On avait donc résolu de se débarrasser honnêtement de Fouqué. Il en fut averti et n'en voulut rien croire. Il avoua à demi ses rapines au roi, et comme le roi lui sourit, il pensa que tout était fini et qu'il pouvait dormir tranquille. Il n'en fut que plus vain et plus présomptueux. D'accord sur la nécessité d'éloigner Fouqué, Louis XIV et Colbert n'étaient plus divisés que sur les moyens à prendre, Colbert poussant à la rigueur, lorsque le malheureux surintendant commit les deux plus lourdes fautes de sa vie, deux fautes à faire pendre 10 innocents, et il était 20 fois coupable. Il donna la fête de Vaux et voulut acheter les faveurs de Mademoiselle de la Vallière. Louis XIV ne songeait point encore à l'humble fille d'honneur lorsque Fouqué en eut la fantaisie. Il lui envoya sa courtière habituelle qui lui proposa 200 000 livres. C'était beaucoup. Fouqué avait pu, à moins, se donner des duchesses. La Vallière refusa. Lafayette, Mémoire, tome 44. Surpris de cette résistance si extraordinaire, le surintendant mit en campagne des gens au flair subtil qui découvrirent l'amour de La Vallière d'abord, l'amour du roi ensuite. Monsieur le baron Valkener, Mémoire touchant la vie et les écrits de Madame de Sévigné. Possesseur d'un secret ignoré de la cour, Fouqué ne songea qu'à en tirer parti pour ses affaires et non à se poser en rival du maître. Ne comprenant pas que La Vallière était l'amante de Louis et non la maîtresse du roi, il fit marchander son influence tout comme il avait fait marchander sa vertu. Ses propositions, bien qu'adroitement faites, accablèrent la jeune fille. En faisant à son amant le sacrifice de sa vertu, elle avait obtenu de lui la promesse que sa réputation serait respectée et que le voile le plus épais couvrirait leurs amours. Elle se crut trahie et raconta tout au roi. Louis XIV entra dans une épouvantable colère et jura de tirer une vengeance exemplaire de l'insolence du ministre. C'est à ce moment que Fouqué, toujours plein de sécurité, malgré plusieurs avertissements venus de divers côtés, choisit, pour donner à son château de Vaux, cette fête magnifique dont le souvenir était resté comme un monument de la fastueuse prodigalité du surintendant. Le château de Vaux, prodigieuse folie de Fouqué, avait absorbé des millions. Là, il avait convié les hommes de génie, ses amis, et, leur ouvrant ses coffres, « Puisez à pleine main, leur avait-il dit, et matérialisez vos rêves. » Il avait été obéi, et le merveilleux palais, avec ses jardins, son parc immense, ses étangs, ses bassins, ses rivières, ses forêts, ses charmilles et son peuple de statues, était sorti de terre comme une des demeures enchantées des contes arabes. Et c'est là que l'imprudent Fouqué voulut fêter Louis XIV. Insensé, qui ne comprenait pas que chaque pierre de son palais, chaque détail de sa fête était une terrible accusation contre lui. « Vous êtes mieux logé que le roi, » dit Louis XIV. Ce seul mot était gros de menaces. Fouqué avait humilié le roi. Mieux eût valu le frapper d'un coup de poignard. Tous le comprirent, lui, non. « Un bon cheval et de l'or plein vos poches, » lui dirent ses amis, « voilà ce qu'il vous faut. » Il s'obstina à rester, il voulait faire les honneurs de sa merveille. Et, à chaque pas, Louis XIV se heurtait à quelque nouveau sujet d'indignation. Partout, jusqu'au-dessus des frises de son lit à balustres, au-dessus du royal soleil, grimpait la téméraire devise du surintendant « Quo non ascendam ?»« Où ne monterai-je pas ?» Puis, au-dessous de l'écureuil, arme parlante, une couleuvre, Colubert, dans laquelle se reconnaissait Colbert. Puis on disait qu'en visitant les appartements, Louis XIV avait aperçu un portrait de femme blonde et que ce portrait était celui de Mademoiselle de la Vallière. C'est à ce moment, pendant ces fêtes de 60 heures, que couronnaient les fâcheux de Molière, tandis que l'orage s'amassait, terrible dans le cœur du roi, que Fouqué osa, frappé d'aveuglement, faire demander à La Vallière quelques instants d'entretien sans autre but que de s'assurer sa protection. En apprenant cette inconcevable audace de Fouquet, la colère de Louis XIV éclata. Il voulait sur-le-champ faire prendre Fouquet, l'abbé de Choisy, prétend que Louis XIV était venu à Vaux avec cette intention. Sa mère, Colbert, deux ou trois confidents, eurent toutes les peines du monde à le calmer et à le détourner de ce dessein peu chevaleresque de faire arrêter son hôte. Il se décida à attendre, jurant que la punition n'en serait que plus terrible. Les murs ont des oreilles, partout où habitent les rois. On sut quelque chose de la colère du roi. On flairait un mystère, chacun était dans l'attente de quelque événement imprévu. On suivait d'un œil distrait les enchantements qui se succédaient, l'intérêt n'était plus là. Il était tout au drame que l'on sentait vaguement dans l'air. « Quel sera le dénouement ?» se demandait-on. Il fut tel que si rien ne s'était passé. Louis XIV s'était décidé à dissimuler, et nul mieux que cet élève de Mazarin ne sut commander à son visage. Le roi quitta le château de Vaux en promettant à son ministre la continuation de ses bonnes grâces. Moins d'un mois après, le 5 septembre, le surintendant, arrêté à Nantes où on l'avait attiré, était conduit au château d'Angers avec le plus grand mystère. Louis XIV fut mal conseillé en cette circonstance. Fouquet était coupable, il pouvait le faire empoigner par quatre estafiers et le faire conduire à la Bastille. Il préféra ruser, mentir, conspirer presque contre son sujet. Le coupable eut le beau rôle. Le roi compromit sa dignité. Fouquet, voleur, au contraire, se conduisit comme un chevalier, dit M. Michelet dans son livre Louis XIV. Fouquet tombé, les courtisans qui tant de fois étaient venus frapper à sa caisse s'éloignèrent de lui. Les femmes et les artistes lui restèrent seuls fidèles. Mademoiselle de Scudéry alla le voir dans sa prison. Madame de Sévigné, qui l'avait gardé pour ami après l'avoir refusé pour amant, mit en mouvement pour lui toutes ses influences. Les gens de lettres s'illustrèrent. Pour lui, ils risquèrent leur influence, leur fortune et leur liberté. La Fontaine, le naïf Fablier, fut héroïque de courage et de dévouement. Mais Fouquet ne put être sauvé. On avait trouvé chez lui de quoi faire pendre tout un conseil de ministres. Il se défendit bien cependant. L'accusation de détournement était la moins grave. Lorsqu'on lui parlait de ses vols, il répondait seulement « Mazarin volait aussi ». Il fut condamné à un bannissement perpétuel. Il fut condamné à un bannissement perpétuel 20 décembre 1664, à la majorité de 13 voix contre 9. Journal de Dormesson. Louis XIV, alors, dit M. Henri Martin, fit une chose étrange, inouïe, que l'on a considérée comme un des grands scandales de l'histoire. Prenant le contre-pied du droit attribué à la clémence royale d'adoucir les peines des condamnés, il aggrava la sentence de Fouquet, et, au lieu de l'envoyer en exil, il le fit conduire prisonnier à Pignerol, avec l'intention de ne jamais lui rendre la liberté. Encore cet horrible abus de justice ne satisfit pas complètement le ressentiment de Louis XIV, il avait espéré un arrêt de mort. Le roi était chez Mademoiselle de la Vallière lorsqu'on vint lui annoncer que la vie de Fouquet était sauvée. Il fit un geste de colère, et, jetant sur sa maîtresse un regard terrible, « S'il eût été condamné à mort, dit-il, je l'aurais laissé mourir. » Cette fête de Vaux, si désastreuse pour Fouquet, n'avait pas été moins fatale à Mademoiselle de la Vallière. À bout de lutte, de vertu et de courage, elle cessa de résister. Vaincue bien plus encore par sa passion si longtemps contenue que par l'amour pressant de Louis XIV, elle se donna tout entière, ou plutôt, elle s'abandonna. Le vrai fond de la fête de Vaux, dit M. Michelet, fut réellement une chasse, la chasse de Fouquet par ses ennemis pour le faire tomber au filet, la chasse de la Vallière pour la livrer au roi. les complaisants y travaillaient. Ils réussirent, à vrai dire, il fallut une surprise. Au milieu du trouble et de l'enivrement de la fête, lorsque tant de magnificence tournait toutes les têtes, Varde, Saint-Aignan et d'autres encore l'attirèrent sous un prétexte frivole et la poussèrent dans un cabinet où l'attendait le roi. Elle était prise au piège. De ce moment commença entre Louis XIV et la Vallière une lutte qui dura autant que la faveur de la pauvre fille. Pudique, craintive, honteuse du mal jusqu'à en mourir, Louise demandait en grâce à son amant la solitude et le mystère. Le roi, au contraire, voulait du bruit autour d'elle, il trouvait indigne de lui de se cacher. Il prétendait éblouir la cour de sa maîtresse. C'était à chaque instant des larmes et des prières nouvelles, car sans cesse le roi, par quelque nouvelle fantaisie, paraissait vouloir ajouter à l'éclat de ses amours. Presque toujours, dans les commencements surtout, la Vallière remportait la victoire et réussissait à calmer la vanité jalouse et si susceptible du roi. Cependant, les relations du roi et de la Vallière avaient trop de confidents pour que tous les intéressés n'eussent pas été prévenus. La reine-mère, madame, la comtesse de Soissons, s'indignaient de la faveur de cette petite sotte. Madame, surtout, convaincue qu'elle avait été jouée, était dans la dernière colère, et on ne peut exprimer ses dépits et ses emportements, et combien elle se trouvait indignement traitée. Elle était belle, elle était glorieuse et la plus fière de la cour. « Quoi ? Disait-elle, préférer une petite bourgeoise de Tours à une fille de roi faite comme je suis ?» Ainsi l'on fait parler madame dans un pamphlet. Dans un autre, elle note tous les détails qui montrent la passion de Louis pour la Vallière. « Le roi, lui fait-on dire, vint un soir avec la reine-mère qui nous montra un bracelet de camée d'une beauté admirable, au milieu desquels une miniature représentant Lucrèce. Toutes, tant que nous étions de dames, nous eussions tout donné pour avoir ce bijou. À quoi bon le dissimuler ? J'avoue que je le crus à moi, car je ne négligeais rien pour montrer au roi qu'il me ferait un présent bien agréable. » Le roi le prit des mains de la reine sa mère et le montra à toutes mes filles. Il s'adressa à la Vallière pour lui dire que nous en mourions toutes d'envie. Elle lui répondit d'un ton languissant et précieux. Alors le roi vint prier sa mère de le lui troquer. Elle le lui donna avec bien de la joie. Aussitôt le roi parti, je ne pus m'empêcher de dire à toutes mes filles que je serais bien étonnée si je n'avais pas ce bijou le lendemain à mon bras. » La Vallière rougit et ne répondit rien. Un moment après, elle partit, et Tonnée Charente la suivit doucement. Elle vit la Vallière regardant le bracelet, le baiser, puis le mettre dans sa poche. La Vallière, en se retournant, aperçut Tonnée Charente. Surprise, elle rougit excessivement et lui dit « Mademoiselle, vous avez maintenant le secret du roi. C'est une chose fort délicate. Pensez-y plus d'une fois. » La pauvre La Vallière se faisait cruellement illusion. Ce qu'elle appelait encore le secret du roi n'était plus qu'un secret de comédie. Moins naïve, elle s'en fut aperçue aux hommages dont l'entouraient les hauts seigneurs de l'intimité du roi qui adoraient en elle le caprice du maître. Elle s'en fut aperçue encore aux insinuations perfides de ses compagnes, beauté jalouse qui ne lui pardonnait pas une faveur dont elle se croyait infiniment plus digne. La malignité avait depuis longtemps fait l'inventaire exact des modestes parures de la pauvre fille, on savait à une épingle près ce qu'elle possédait d'armes dans l'arsenal de sa coquetterie féminine, et pour peu qu'un bijou nouveau vint relever la simplicité de sa toilette, la chronique scandaleuse en tirait les plus méchantes inductions. C'était un des bonheurs du roi de parer son idole, il eût voulu la couvrir de perles et de diamants. Sa grossière vanité souffrait cruellement de voir les simples toilettes de Louise écrasées par les tapageuses parures des moindres dames de la cour. Selon lui, la femme aimée du roi devait être par la richesse de sa mise bien au-dessus de toutes les autres femmes. Tous les dons de son amant, précieux pour elle seulement parce qu'ils étaient un gage d'amour, la Vallière les serrait avec soin dans ses coffres, et lorsque le roi lui reprochait de n'en pas faire usage, « Vous voulez donc, sire, disait-elle, me forcer d'étaler à tous les yeux les marques de ma honte ?» Étranger à toute délicatesse de sentiment, Louis XIV ne comprenait rien aux scrupules de son ami. Il ne voyait pas que l'on pût rougir d'être la maîtresse du roi. Lorsque Louise disait « honte », il pensait qu'elle eût dû dire « honneur ». Beaucoup de gens à la cour étaient de cet avis, et l'on se moquait fort des craintes pudiques de la Vallière, que l'on ne pouvait s'empêcher de taxer de simplicité. Parfois, cependant, cédant aux sollicitations pressantes de son amant, craignant par ses refus de froisser un amour qui était sa seule consolation, la Vallière consentait à se parer de quelques-uns de ses présents. Elle choisissait alors, parmi les plus modestes et les plus simples, ceux qui lui semblaient devoir le moins attirer l'attention. Des pendants d'oreilles, une montre en or, un collier de perles à un seul rang. Encore, elle rougissait et courbait le front sous ses bijoux indiscrets qu'elle devait plus tard appeler livrée de son infamie. Mais le roi avait bien d'autres moyens de l'afficher et de la compromettre. À Fontainebleau, par exemple, toute la cour est surprise par un orage à une lieue du château. Le roi ne songe qu'à la Vallière. Il court à elle, et se découvrant, il essaie avec son chapeau de la garantir de l'eau qui tombe à grosses gouttes. Quelques jours plus tard, à une revue donnée pour les gentilshommes de l'ambassade d'Angleterre, Louis XIV oublie et les ambassadeurs et les reines, et, s'avançant au galop vers le carrosse de la Vallière, il reste à la portière, la tête découverte, pendant une heure et demie, bien qu'il fît une petite pluie pénétrante que tout le monde trouvait fort incommode. Marie-Thérèse elle-même, cette épouse si passivement dévouée, si naïvement idolâtre de Louis XIV, avait dès cette époque de cruels soupçons. « Un soir, dit madame de Motteville, j'avais l'honneur d'être auprès de la reine à la ruelle de son lit. Elle me fit signe de l'œil, et, m'ayant montré mademoiselle de la Vallière, qui passait par sa chambre pour aller souper chez la comtesse de Soissons, elle me dit en espagnol « Esta donzella, con lo arcada de diamanta, es esta que el rey quiere. » C'est cette fille au pendant d'oreilles de diamant que le roi aime. Cette semaine, dit Bussy, Bussy Rabutin, discours sur les amours de mademoiselle de la Vallière. Le roi et mademoiselle de la Vallière allèrent seuls à Versailles, où ils se régalèrent 6 à 8 jours à tout ce qu'ils voulurent. Là, revenant à Paris, la Vallière tomba de cheval. Elle ne se serait pas fait grand mal si elle n'avait été la maîtresse du roi. Il fallut la saigner promptement. Elle voulut que ce fût au pied. 2 fois, le chirurgien manqua l'opération. L'amant devint plus pâle que son linge et voulut la saigner lui-même. Elle fut obligée de garder le lit 1 mois, et, à cause de tout cela, le roi différa de 2 jours son voyage à Fontainebleau. Au retour, la joie fut grande, celle de la reine ne fut pas de même. Elle avait assez déjà de chagrin, sans celui d'avoir à entendre, presque toutes les nuits, le roi qui rêvait tout haut de sa petite Cato. C'est ainsi que la reine nommait la Vallière, parce qu'elle ne savait pas assez bien la valeur précise des mots français. Ce dernier trait est joli, et bien dans le ton de raillerie qu'affectionne Bussy. Mais les entrevues des 2 amants n'étaient point encore aussi faciles qu'ils l'indiquent. 2 partis rivaux surveillaient furieusement mademoiselle de la Vallière, celui de madame et celui des dévots. Madame tenait Louise dans sa main, elle était de sa maison, attachée à son service, elle l'enchaînait à ses pas et ne la perdait pas un instant de vue. D'un autre côté, Anne d'Autriche avait ses espions. Enfin, on avait réussi à piquer au jeu madame de Navailles, qui n'avait pas assez de clés ni de verrous pour griller celle de ses ouailles qui lui semblait le plus en danger. Louis XIV, enragé de tous ses contretemps, la contrainte lui semblait horrible. À chaque instant, il menaçait de briser comme verre tous ceux qui hérissaient d'obstacles son bonheur le plus cher. Il fallait tout l'ascendant de la Vallière pour apaiser cette colère, toujours prêt d'éclater. Et encore, on osait railler la Vallière. À la cour, nul n'était censé connaître le secret du maître. On pouvait donc parler de la fille d'honneur de madame sans attenter à la majesté royale. Certains audacieux ne s'en faisaient pas faute. Ils payèrent cher leur audace. Un courtisan s'avisa un jour de dire que la beauté de la Vallière n'était pas la plus parfaite de la cour. Celui-là était un sot ou ne craignait pas la Bastille. Louis XIV se contint cependant. « Je la ferai monter si haut, dit-il, que la tête tournera aux audacieux qui oseraient lever les yeux jusqu'à elle. » Le malheur est que la Vallière se refusait à toute élévation. Après avoir donné son honneur au roi, elle lui disputait lambeau par lambeau sa réputation. Elle y tenait, prétendant que c'était son seul bien. Louis XIV voulait retirer sa maîtresse de chez madame, lui donner un palais à elle, l'affaire la plus riche et la plus puissante dame de France. Elle repoussait ses offres qui eussent ébloui tout autre. Le roi, à son grand désespoir, continua son rôle d'amant aventureux, de chevalier des gouttières, rôle difficile et plein de périls, qui lui semblait un crime de lèse-majesté, le plus grand des crimes. C'était le beau temps des amours de la Vallière. Les entrevues des deux amants étaient furtives et rares, et cependant tous les amis du roi, d'Anjou, Saint-Aignan, La Feuillade, Roquelaure même, passaient leur vie à imaginer des ruses nouvelles pour déconcerter toutes les surveillances. À courir de nuit sur les toits, au bout d'une corde que tenait La Feuillade, le roi avait failli se rompre le cou. On avait enlevé les échelles si bien à la main qui servaient dans les premiers temps. La farouche duchesse de Navailles avait fait murer une porte secrète percée dans l'épaisseur d'un mur. Autant de moyens usés. Les confidents du roi se mettaient à quatre pour inventer autre chose. Saint-Aignan seul trouva de jolis trucs. On défonça un plafond et, pendant une chasse qui avait entraîné toute la cour, on ajusta un escalier mobile dont la dernière marche touchait le pied du lit de la Vallière. Elle n'avait qu'un pas à faire. L'escalier échelle aboutissait à l'appartement de Saint-Aignan qui avait mis dans de beaux meubles les amours du roi. C'était un charmant et somptueux réduit orné par des artistes de génie, un nid de satin et de velours. Là, les deux amants eurent des heures délicieuses, l'oreille au guet entre deux baisers. La crainte sonnait les quarts d'heure, l'anxiété donnait aux minutes un prix inestimable. Saint-Aignan et les autres faisaient sentinelle, Saint-Aignan plus fier que les autres à cause de l'honneur qu'on faisait à son appartement. Ainsi, ces habiles courtisans gagnaient bravement leur grade au service du roi. L'escalier finit par être découvert, paraît-il, car madame changea la Vallière de chambre. Nouveau contretemps, nouvelle ruse. Pour les cas extrêmes, et lorsque depuis trop longtemps les entrevues avaient été impossibles, il y avait la ressource des maladies. Le roi, prévenu, invitait toute la cour à quelque fête. L'invitation était un ordre, la fête était une revue, tout le monde devait être sous les armes. Au dernier moment, la Vallière se déclarait malade. Force était alors de la laisser seule. Qui donc eût osé ne pas se rendre à une invitation du roi? Un gentilhomme qui avait été désigné pour un ballet eut le courage de quitter le lit où il se mourait pour venir danser son pas. Il y perdit la vie, mais non la faveur. La solitude ainsi faite autour de sa maîtresse, le roi accourait, certain que nul n'oserait s'apercevoir de son absence, encore moins en soupçonner tout haut le but. Encore quelques bons instants pris sur l'ennemi. Il est bon d'insister un peu sur cette première période des amours de Mademoiselle de la Vallière. Son caractère en ressort plus digne et plus sympathique. En la comparant à une modeste violette qui se cache, Madame de Sévigné, cette femme si spirituelle dont tout le cœur était dans la tête, n'a fait que lui rendre justice. C'est malgré elle, c'est après bien des larmes et des supplications inutiles qu'elle sort de son obscurité. Heure par heure, nous pouvons suivre les phases de la lutte qui, dès le premier jour de leurs amours, s'engagent entre l'humble fille d'honneur et le tout-puissant roi de France. La Vallière demande à son amant l'ombre de la solitude, l'obscurité, le mystère. Elle le conjure de jeter un voile épais sur des relations que condamne la morale. Le roi, au contraire, veut pour sa maîtresse tous les prestiges du rang, de la richesse et du pouvoir, jusqu'à ce qu'enfin, lui donnant la plus haute dignité que puisse rêver une ambitieuse, il prétende lui faire une auréole d'un amour adultère. Tandis que cette intrigue du roi se croisait avec les mille intrigues des courtisans qui mettaient leur gloire à se modeler sur leur maître, le temps marchait. Louis XIV organisait sa cour et embrigadait la noblesse. Du haut de l'étonnant Sinaï de sa présomption, il commençait à dicter les articles du culte de sa personne et les cadres de l'étiquette plus révérés 100 fois que les tables de l'ancienne loi. Ce n'est pas tout. Il s'agissait, pour être fidèle à un plan habilement calculé, d'amuser cette cour, œuvre de Louis XIV, instruction pour le dauphin, d'enchaîner par de perpétuels enchantements cette noblesse autrefois si indisciplinée. Le roi fait l'aumône en dépensant beaucoup. L'aumonté, les dernières années de Louis XIV. Tome 5, page 144. Les dernières années de Louis XIV montrent où peuvent conduire de tels axiomes. Les lettres de Colbert au roi prouvent que ce grand ministre n'approuvait pas cette façon ingénieuse et facile d'enrichir un peuple. Louis XIV goûta plus que tout autre cet agréable axiome. Charitablement, il voulut faire d'énormes aumônes à son peuple et les grandes fêtes de son règne commencèrent. Pour donner plus d'éclat aux réjouissances et encourager le luxe ruineux des courtisans, Louis XIV inaugura son système de largesses et ouvrit les réservoirs de ses faveurs. Il fit pleuvoir les cordons bleus. En une seule fois, il eut une promotion de 71 chevaliers. Presque en même temps, il imaginait une distinction nouvelle qu'on se disputa bientôt avec fureur, les justaucorps abreuvés, moyen excessivement adroit de faire porter sa livrée à la plus haute noblesse de France. Le justaucorps abreuvé était une casaque bleue, brodée d'or et d'argent, semblable à celle que le roi portait lui-même. Il était un indice de faveur et nullement une récompense de service rendu. Ce fameux justaucorps donnait le droit de suivre le roi dans ses chasses et dans ses promenades à la campagne. Pour se parer de cette livrée, il fallait une autorisation spéciale ou brevet. De là le nom. Avoir l'ardeur que mettait Louis XIV à s'occuper de la splendeur de sa cour, on eût pu croire qu'il n'avait pas d'autre soin. Il s'intéressait aux moindres détails, voulait tout régler lui-même, tout voir, tout approuver. Il avait, avec les ordonnateurs des plaisirs royaux, de longues conférences, examiné leurs plans et leur suggéré des idées. Les divertissements se ressentirent de la surveillance du maître. Le ballet qu'on donna cette année, Hercule amoureux, était le plus magnifique et le mieux ordonné qu'on eût vu. Machinistes, décorateurs, costumiers s'étaient surpassés. Jamais Benserade, le poète officiel, n'avait trouvé des louanges si délicates, des allusions si ingénieuses. Louis XIV, qui avait toujours aimé la danse et qui ne manquait jamais une occasion de monter sur un théâtre quel qu'il fût, figura dans le ballet et daigna danser lui-même. Il obtint le plus grand succès. Puis vint le célèbre carrousel qui a donné son nom à la grande place qui s'étend devant les Tuileries et que, pour cette circonstance, on avait décoré avec une pompe extraordinaire. Il y eut 5 quadrilles. Le roi était à la tête des Romains, son frère des Persans, le prince de Condé des Turcs, d'Enghien, son fils des Indiens, le duc de Guise des Américains. Ce duc de Guise, petit-fils du Balafré, était fameux dans le monde par son audace malheureuse. Sa prison, ses dettes, ses amours romanesques, ses profusions, ses aventures le rendaient singulier en tout. on disait de lui, en le voyant courir avec le grand Condé, « Voilà les héros de la fable et de l'histoire. » Description du Carousel de 1762, Bibliothèque impériale, collection des gravures. Entre tous ces grands seigneurs si galants, si magnifiques, le roi se faisait remarquer par le bon goût et la richesse de ses costumes. Là, pour la première fois, il porta l'emblème devenu fameux, un soleil éclairant un globe de feu avec cette devise « Ne più, ne pari », dont le « Nec pluribus impar » n'est que la traduction. Mémoire touchant les écrits de Madame de Sévigné, deuxième partie, page 466. Aux exercices dangereux des fêtes de la chevalerie si chères aux Valois, avaient succédé des jeux de précision et d'adresse au carrousel des Tuileries, après de brillantes passes d'armes, il y eut des courses aux bagues et aux têtes, divertissement nouveau pour la foule, avide de jouir du plus brillant spectacle qu'on eût encore contemplé. Marie-Thérèse et Anne d'Autriche, la mère et la femme du roi, semblaient les reines de la fête. Des mains, elles donnaient les prises aux vainqueurs, mais la Vallière était en réalité la divinité invisible à laquelle s'adressaient toutes ces magnificences. Perdue dans la foule des grandes dames et des filles d'honneur, elle s'enivrait des succès et de la gloire de son amant. N'était-ce pas pour elle qu'il avait déployé toute cette pompe, mis en mouvement ses troupes magnifiques, ses escadrons de héros? C'est vers elle qu'en secret montaient tous les hommages. C'est elle que le roi cherchait sur les estrades, heureux lorsque ses yeux rencontraient les yeux de sa maîtresse, et que, furtivement, il pouvait échanger mille promesses dans un regard. Toutes ces fêtes ne touchaient guère Madame, ou plutôt, il n'y avait plus de fêtes pour la triste Henriette d'Angleterre. Seule, délaissée, elle restait face à face avec cette fille minaudière qu'on appelait Monsieur, honteux mari que lui avait imposé la politique. Son règne avait duré moins de 3 mois, et tout prestige s'était évanoui. Elle était enceinte alors, et sa santé si frêle était devenue menaçante. Dans son ennui, elle s'était laissée distraire par Guiche, qui professait pour elle un culte passionné. Guiche venait chez elle, sous tous les déguisements possibles, en vieille femme le plus souvent, sous prétexte de dire la bonne aventure. Insensiblement, Madame s'était rapprochée d'Olympia Mancini, comtesse de Soissons, une autre délaissée que consolait de Varde. Olympia détestait la Vallière et ne cherchait qu'à la renverser. Elle avait essayé de déplacer les faveurs du roi en offrant à son amour 2 des plus jolies personnes de la cour, mais elle avait échoué. Elle imagina alors, en collaboration avec de Varde, un complot à double fin qui devait perdre la Vallière dans le présent et Henriette dans l'avenir. Pour arriver au but, elle se fit l'alliée de Madame, qui, elle aussi, rêvait le renversement de la favorite. Il va sans dire que Guiche était dans le secret. Les conspirateurs imaginèrent de supposer une lettre du roi d'Espagne à Marie-Thérèse, lettre dans laquelle, après avoir appris à sa fille tout ce qui se passait, il lui représentait qu'il était de sa dignité de reine de faire chasser de la cour la maîtresse de son mari. Le plan était habile, l'exécution ne l'était pas moins. L'écriture et le style du roi d'Espagne avaient été merveilleusement contrefaits. La reine y eut été prise, de là esclandre et chute de la Vallière. Toute cette belle machination échoua cependant par la faute d'une comparse, Montalet, fille d'honneur de Madame. Montalet, pauvre et ambitieuse, à la chasse d'un mari, ne voyait dans toutes ses rivalités qu'un moyen d'assurer son établissement et sa fortune. Elle pêchait en eau trouble. Intrigante de troisième ordre, elle tenait cependant le fil de toutes ses trames. Confidente à double face, elle allait de Madame à la Vallière et, tout en les amusant de son caquet, surprenait leurs secrets et les emmagasinait pour l'avenir. Un jour, cette rusée, qui pourtant ne s'abandonnait guère, eut la langue trop longue avec la Vallière. Sous le sceau du secret, elle lui raconta les moindres détails de l'intrigue galante de Guiche et de Madame. Le soir même, Louis XIV parla à sa maîtresse de cette grande passion de Guiche que l'on commençait à soupçonner et qui arrachait à monsieur des hurlements de désespoir faciles à comprendre puisqu'il se trouvait à perdre tout à la fois sa femme et un de ses anciens favoris. Le roi voulait savoir si Louise n'avait entendu parler de rien. Aux questions de son amant, la pauvre fille, qui eût mieux aimé mourir que de trahir la confiance d'une amie, ne sut que rougir et balbutier. Le roi comprit qu'elle savait quelque chose et insista, lui rappelant leur mutuelle promesse de n'avoir jamais de secret l'un pour l'autre. Et, comme elle s'obstinait encore dans son silence, il se leva brusquement et sortit furieux. Les deux amants étaient convenus plusieurs fois, dit madame de Lafayette, que, quelque brouillerie qu'ils eussent ensemble, ils ne s'endormiraient jamais sans se raccommoder et sans s'écrire. La Vallière, effrayée de la colère du roi, se hâta de lui faire passer une lettre où elle s'accusait et s'excusait de la façon la plus touchante. Elle attendit la réponse. Maintes fois déjà, chose pareille était arrivée et le roi était toujours venu au devant de la réconciliation. Mais cette fois, il tint rigueur. La pauvre Louise passa sa nuit à pleurer, espérant toujours un mot de pardon. Ce pardon ne vint pas. Alors, elle crut que tout était fini. L'amour de son amant perdu, le reste lui importait peu. Au petit jour, elle sortit, désespérée, des Tuileries et s'en alla se camper dans un couvent, non pas à Chaillot, mais à Saint-Cloud. La matinée était déjà avancée lorsque le bruit de la disparition de la Vallière se répandit aux Tuileries. Le duc de Saint-Aignan fut des premiers avertis. Sans perdre une minute, l'habile courtisan courut aux informations afin de découvrir la retraite de la fugitive. Un exempt qui, voyant à cette heure matinale sortir des Tuileries une femme en toilette de cour, l'avait suivie à tout hasard et l'avait vue frapper à la porte du couvent, put donner le premier enseignement. Restait à avertir le roi, les moments étaient précieux, un autre pouvait avoir la même idée. Malheureusement, Louis XIV, ce jour-là, donnait audience aux ambassadeurs d'Espagne. Parvenir jusqu'à lui était difficile, lui parler impossible, l'étiquette était formelle. Mais Saint-Aignan n'était pas homme à s'embarrasser de si peu. Ami et confident du roi, il avait toutes les entrées, les grandes et les petites.